Welcome to the GAC Files, a podcast about the people, issues, and ideas driving Global Affairs Canada.
Bienvenue dans les dossiers d'AMC, un balado sur les personnes, les défis et les idées qui animent Affaires mondiales Canada.
And now, introducing your host, Global Affairs Canada's David Morrison.
Et maintenant, présentant votre hôte, David Morrison d'Affaires mondiales Canada.
J'ai connu Sacha Levasseur-Rivard pour première fois en 2012, pendant mon premier voyage d'affaires à ACTI. Depuis ce temps-là, Sacha s'est réinventé premièrement comme agent politique sur l'Afrique et bientôt comme agent des affaires publiques au Mexique, où il sera affecté cet été avec sa famille. J'avais l'occasion récemment de parler avec Sacha sur sa carrière, son philosophie de travail, et ses conseils pour les collègues les plus jeunes ici au ministère. Sacha, c'est toujours un plaisir de te voir. Je crois qu'on s'est connus pour la première fois au Pérou en 2012. On travaillait tous les deux chez ACTI à ce moment-là. Since then, you have become what I think of as the fully amalgamated new generation of the Department of Global Affairs or Global Affairs Canada. You worked in my group for a while on mission coordination. You then t'étais agent politique, je crois, mm-hmm. dans le secteur de l'Afrique de Sud ou de l'Ouest. Et maintenant, tu vas aller au Mexique et pour travailler dans la fonction de je sais pas, communication et affaires publiques. But you began life as a journalist. So talk to me about that. Growing up in Gatineau, you seem to have kind of two bits of the family business, the journalism bit and the foreign service bit.
Ouais. Ben d'abord, merci beaucoup, David, de me recevoir ici. Ouais. Je suis très honoré, en fait, de faire partie des gens que tu invites pour ton podcast.
On a parlé il y a un moment, le plus jeune.
Le plus jeune.
Le plus jeune de GAC Files jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant. Et je faisais des blagues en disant le moins intéressant aussi, mais ça sera aux auditeurs de juger. Mais non, merci beaucoup. En effet, moi, je n'étais pas dédié à une carrière internationale. En fait, j'étais... bon, c'est ça, comme tu l'as dit, je suis né et j'ai grandi à Hull, en fait, de l'autre côté de la rivière, qui est maintenant Gatineau, mais mes deux parents sont de Trois-Rivières. Ouais. Donc, je me plais à dire que je suis trifluvien et gatinois en même temps. Ouais. Mon père était, en fait, journaliste. Et pour le pendant francophone de CBC, Radio-Canada. Ouais. Et puis, il a été affecté, comme nous, on l'est, là. Il a été affecté à Vancouver, puis ensuite à Ottawa. Ouais. Et puis, ma mère l'a suivi. Puis, c'est comme ça que je suis né dans la région ici. Et j'ai toujours grandi avec cette idée que j'allais faire comme mon père, faire du journalisme, être reporter. Mon oncle, d'ailleurs, le frère de mon père, Paul Rivard, est aussi un journaliste reporter bien connu au Québec. Donc, c'est l'image que j'avais de ce que j'allais faire dans le futur. Et puis, ben c'est ça, j'ai un peu navigué comme ça pour aller faire mes études. Je devais d'abord aller faire des études en communication à l'Université à Montréal. Et puis ensuite, j'ai eu par hasard un collègue qui m'a parlé d'un programme qui s'appelait International Studies, études internationales à l'Université de Montréal, un baccalauréat. Et puis, je me suis dit, ah ben c'est pas fou. Au lieu d'aller apprendre à communiquer, je pourrais apprendre à comprendre le monde autour de moi. Et puis, j'ai toujours été attiré par les enjeux qui sont plus grands que moi, bigger than myself. Et c'est là que je suis allé faire le baccalauréat à l'Université de Montréal. Et je ne l'ai jamais regretté parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme, mes meilleurs amis que j'ai encore aujourd'hui. Ça a été pour moi comme le début.
Oui, mais après, tu étais à l'Université de Sherbrooke. Mais entre les deux, tu étais journaliste avec la presse.
Exact. Ouais. Donc, je suis allé faire le baccalauréat en études internationales, qui qui était très cool parce que c'était un mélange d'histoire, de sciences politiques, de droit, d'économie. J'avais appris plein de choses. Puis là, je me suis dit, peut-être que maintenant, je suis prêt à faire ce que je veux faire, là, du journalisme. Et j'ai eu la chance d'avoir un boulot à la presse canadienne, Canadian Press, à Montréal. Et j'étais à ce moment-là journaliste radio. Donc, lecture de nouvelles, chef de pupitre.
En anglais, en français?
En français. Mais j'avais des collègues anglophones qui faisaient le côté anglais. Et j'ai adoré ça. Mais j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose pour être heureux dans le monde professionnel. Puis c'était le travail d'équipe. Travailler sur des projets, voir à plus long terme, développer des relations avec des gens, tout le leadership, le teamwork. Et c'est pour ça qu'à un certain moment donné, j'ai décidé de me réaligner puis d'aller faire une maîtrise à Sherbrooke en management.
Ouais. Et en ce moment-là, tu as décidé d'inviter ton oncle faire un discours, faire une présentation.
Exact.
Et ça a changé la vie, ta vie.
Absolument. En fait, c'est particulier parce que je faisais ma maîtrise en management à Sherbrooke, qui est une super jolie ville. Je profitais du plein air là-bas, mais je ne réfléchissais pas beaucoup à où j'allais aller après. Et puis, j'ai eu l'idée d'inviter mon oncle, Gilles Rivard, que certains connaissent ici, ou plusieurs connaissent, parce qu'il a fait carrière à l'ACDI. À ce moment-là, on était en 2006, il était directeur général, je pense, pour le Maghreb, l'Europe, le Moyen-Orient. Et je l'ai invité à venir dans ma classe, dans mon groupe à l'université, pour donner une présentation sur ce que fait l'ACDI, les projets de développement, la politique étrangère canadienne. Et puis, je l'écoutais parler dans la classe. Gilles a par la suite été ambassadeur en Haïti, a été ambassadeur aux Nations Unies. Un gars qui a beaucoup de contenu, puis je l'écoutais, et ça m'a ouvert des lumières. J'ai dit, ça, c'est fascinant.
Ça,
c'est plus grand que moi. Ça, c'est des choses, des enjeux qui sont intéressants.
Ouais.
Et puis, on est allé luncher à la cafétéria à l'université ce midi-là. C'est Sodexo, la même qu'on a ici au 125. donc, je ne parlerai pas de la qualité du lunch, mais la conversation, ça a été, écoute, Sash, parce que Gilles, il m'appelle toujours Sash. Pourquoi tu n'essaierais pas de faire un stage étudiant à l'ACDI? Alors, je dis, fine, j'ai écrit ma lettre, j'ai envoyé ça à ce moment-là. Je pense que c'était Suzanne Laporte qui était...
Sous-ministre adjoint.
Et puis, elle a été très gentille. Elle m'a répondu. Elle m'a dit, ah, ben, je suis intéressé. Je vais envoyer ton CV à différentes personnes. Et puis, c'est Antoine Chevrier, qui est aujourd'hui notre haut-commissaire au Mozambique, qui m'a répondu puis qui a dit, hey, viens avec nous. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré à l'ACDI sur le programme Haïti en 2007.
C'est comme un thème de Gag Files, que souvent c'est quelqu'un, pour moi c'était Flora McDonald, qui a visité mon école secondaire, qui a changé ta vie. Un discours, une conversation de 5 minutes, une impression, et tout à coup tu as un esprit plus ouvert, je sais pas quoi, mais it's really I find it fascinating to think how when we're in those formative years it doesn't take much to get passionate about a new direction and then you look back and that's the direction that your life has taken.
Absolutely. And when I look back at my short career now, it's always about the people you meet and the timing. So that was clearly a moment in my life. When I told my wife that we were moving back to Ottawa, it was not like a super happy conversation. But I mean, when I look back, it was just the right decision at the right time.
Yeah.
And I must say that you're one of these persons that, I mean, had an influence on my career. But we'll get to that later,
whether it was positive or negative. Tu as travaillé sur le dossier d'Haïti pendant le tremblement de terre.
Oui.
Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai commencé sur le programme Haïti. J'étais assez jeune, j'avais 26 ans, je pense. J'étais étudiant coop. Et on m'a mis en charge de projets de gouvernance, d'appui à la police haïtienne, construction d'une académie de police. En tout cas, j'étais dans ce remit-là. Et puis... Et puis, je faisais ma job. Moi, le programme IT, ça a été mon école. J'ai tout appris avec des gars comme Louis Verret, comme Luc Fréchette, Isabelle Bérard, qui était DG à ce moment-là, Antoine Chevrier. Je peux en nommer plusieurs comme ça.
C'était un des plus gros programmes.
C'était gigantesque. Je suis arrivé au moment où le gouvernement conservateur venait d'annoncer 500 millions de dollars sur 5 ans pour Haïti. Ça, c'était avant le tremblement de terre. Et puis, on travaillait fort, on programmait beaucoup, il y avait un bel enthousiasme. Haïti était, en fait, à un bon moment de son histoire, était en train tranquillement de sortir du marasme, un peu de développement économique. Je me souviens, le premier ministre Jean-Max Bellerive était un homme quand même très sensé, puis qui avait une idée de où voulait aller le pays. Et puis là, il y a eu cet événement tragique en 2010. Ouais. Je m'en souviens, c'est l'année où mon fils est né. Et en fait, je devais être là-bas à ce moment-là parce que je planifiais ce projet de construction d'académie de police et on avait une visite avec tous les entrepreneurs intéressés. Mais je ne suis pas allé parce que ma femme était sur le point d'accoucher. Et c'est Lara Bremner, ma gestionnaire à ce moment-là, qui est allée. Et je peux vous dire que j'ai toujours vécu avec un peu de culpabilité parce qu'elle, elle a vécu le tremblement de terre. Ainsi que plusieurs de mes collègues qui étaient là à ce moment-là. Et j'en parle, j'ai des frissons parce que c'est pas tous les jours que dans le cadre du travail, on côtoie la mort, la souffrance humaine. Mais il y a des gens qui l'ont vécu qui pourront vous raconter peut-être leur expérience, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'on a eu des collègues qui ont été extrêmement courageux pour aider les Haïtiens. Puis nous, de notre côté, ici à Ottawa, on faisait le mieux qu'on pouvait pour aider, supporter nos collègues sur le terrain.
Non, c'était un moment de vrai leadership de Canada.
Absolument, absolument.
Puis, 2 ans après, tu étais au Pérou, je crois, ou peut-être un an après, j'ai visité mois de octobre ou novembre de 2012. we took a small plane flight together that
the so-called plane.
Comme famille, tu avais deux enfants en ce moment. C'était comment comme posting à Lima dans un moment de transition du pays?
Ah oui, absolument. Je pense que pour moi, le Pérou, ça a été une des plus belles expériences de ma vie, personnellement et professionnellement.
Tu avais parlé l'espagnol avant?
J'avais pris des cours. Mais tu sais, elle a dit dans ce temps-là, ils nous envoyaient pas en language training. Donc, j'avais pris des cours, je m'étais payé des professeurs personnels. Ma femme parle espagnol aussi, elle avait voyagé dans le passé. Puis, tu sais, Frédéric et moi, mon épouse, on a comme un deal où c'est comme une aventure d'équipe, ça. On veut ces expériences-là ensemble. Elle ne fait pas partie des affaires étrangères, elle est professeure au cégep, mais elle est attirée par ça. Donc, on a un amour pour l'Amérique latine. Donc, ça a été une super belle expérience, mais ça a été quand même assez « tough ». En termes de gestion familiale, parce qu'on avait nos deux enfants. Il y en a un qui avait 18 mois, Romain, mon garçon, ma fille Violette avait 3 mois. Le voyage en avion pour se rendre a été la pire expérience de ma vie, de courir dans l'aéroport pour la connexion à Toronto avec les... Mais je veux souligner par contre qu'Antoine Chevrier, qui était notre chef d'aide à ce moment-là à Lima, était à l'aéroport à 2h du matin pour me recevoir. Et ça, je pense que c'est juste un petit exemple d'à quel point on a été bien reçus au Pérou, l'équipe là-bas. Et comme tu l'as dit, c'est un moment spécial dans l'histoire du Pérou où il y a une croissance économique extraordinaire. Ils ont beaucoup de ressources. Maintenant, il faut qu'ils apprennent.
Une croissance des relations entre le Canada et entre le Canada et le Pérou.
Absolument.
Mais... quand tu es revenu ici à Ottawa, c'était au moment de la fusion ou après?
En fait, la fusion s'est passée pendant que j'étais là-bas. Je m'en souviens parce que on l'a tous appris en même temps quand le budget a été annoncé.
Moi aussi.
C'est comme, here's a heads up for you. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que la fusion s'est passée là-bas formellement, mais nous, à l'ambassade, au Pérou, on travaillait de façon amalgamée, parce que c'était un programme décentralisé d'abord, un des premiers, et on travaillait dans des secteurs qui permettaient une convergence. For me, it was a real eye-opener in Peru, because I realized that all those tools we had in our toolbox, if we can use them together on the political, commercial, and development side, we can do amazing things. And we did, actually. I was in charge of natural resource governance, i.e. the extractive sector. At that time, there was a big push to attract private investments and to co-fund projects. And actually, we were pretty successful. I remember this local fund that we had, the Andean Regional Initiative, $5 million in Peru, Bolivia, and Colombia. All together, we were able, with these $15 million, to leverage almost $10 million from the private sector.
Yeah, yeah.
So with $15 million of public funds, we did $25 million of projects in areas where people were in deep need of assistance.
Yeah.
And so for me, it was, and I mean, the development guy that I was trying to call the mining companies. Nobody would answer or return my call. And I went to my trade colleague and she took the phone and they called back
right
away.
Right.
I was coming with the money. She was coming with the contacts. And our political colleagues had this little, you know, these CFLI stuff that they can do, small events. And so all together, we did amazing things, I think.
It really shaped seeing you guys in action in Peru, which was actually my first trip as a member of CETA. Seeing you guys in action in a middle-income country really shaped my view of the potential of amalgamation. And I think it's fair to say that in the early days, Colombia, Peru, Indonesia emerged as the kind of poster children for amalgamation in action. I think it's harder to pull off in lower-income countries, but in Peru, where Canada's trade, diplomatic, and development interests have natural synergies, it was really amazing. And in fact, when I visited, when we first met, it was actually Antoine who was the chargé d'affaires, which was entirely natural, even though he was actually working for CETA. There's a theme that's emerging in our conversation with young Sasha, and I'm realizing it, that it's sort of mentorship. You seem to have joined the public service at the encouragement of a senior official who happened to be your uncle.
Yeah.
You worked for an innovative manager in Peru, who then recruited you into a totally different function in the amalgamated headquarters as it became in 2013. So talk to us about what you did in that first job.
Et je vais retourner au français pour le plaisir de nos auditeurs. Mais non, NMD, que ça s'appelait, ça s'appelle encore NMD, Geo Coordination Mission Support. Ça, c'était, j'ai appelé ça mon époque terrain de jeu, innovation, Big Sandbox. Parce que c'était une unité qui venait d'être tout juste créée après la fusion pour coordonner le travail des secteurs géographiques. Mais notre mandat était très large. On avait des fonctions très diverses. On avait toute l'équipe en charge de Strategia, l'équipe en charge du advocacy à l'étranger, l'équipe, ton équipe qui t'appuyait comme Chief Development Officer, l'unité de liaison avec Immigration Canada. Puis moi, j'étais dans le bureau du DG à ce moment-là comme conseiller. Et on s'est dit, waouh, le mandat est large. On a tout à faire parce que ça n'existait pas avant. Essayons de profiter de ça pour développer des approches innovantes pour le travail. Et puis nous, on était aussi des convaincus de la fusion puis de l'importance de mélanger les compétences. Donc, on s'est mis à travailler là-dessus. Et on a développé, et je veux pas devenir trop technique, mais vous savez, dans notre organisation, on utilise encore, pour s'organiser là, dans un environnement complexe comme aujourd'hui, on utilise encore le modèle de Adam Smith. des années, je ne sais pas, 1800, il y a deux siècles. Et des boîtes avec des lignes. Puis, tu sais, tu as fait 3 ans au Pérou, tu es devenu un expert du Pérou, tu reviens ici, on te met dans l'équipe de la dénucléarisation, puis tout à coup, il n'y a plus jamais personne qui va te parler du Pérou. Je veux dire, parce que d'abord, on ne sait pas que tu as fait ça, parce que tu es dans une grosse organisation. Puis ensuite, ben, on va te dire, oh non, ça, c'est pas ta job. Toi, ta job, c'est la dénucléarisation. Puis nous, on est un peu contre ça, donc on a essayé de développer une approche plus collaborative, fonctionner par projet. Puis dire, OK, on a ce projet-là dans l'équipe de Strategia. On a une belle équipe, là, mais dans notre équipe, il nous manque quelqu'un qui connaît bien les applications mobiles. Alors là, on a envoyé un message un peu partout pour dire, is there someone in this department who knows about mobile apps? Because we need your expertise for a certain number of hours over, I don't know, 4 weeks. And then we would grab that person.
C'était les micro-missions. Hein?
Les micro-missions, c'est ça. Et on s'est rendu compte que le secrétariat du Conseil du Trésor, avec d'autres ministères dans le gouvernement fédéral, travaillait aussi là-dessus en parallèle. Donc, on s'est joints. Puis maintenant, je pense que si tu vas sur GC Connect, il y a encore les micro-missions, puis on peut encore. Puis les gens doivent le savoir parce que on sait que la mobilité dans le ministère ici n'est pas très évidente pour monter, avoir des promotions. Mais si tu peux avoir accès à d'autres défis, basé sur tes compétences, là, pas ton statut dans l'organisation. I don't care if you're, sorry, but DM or an ADM or project officer. I mean, you have competencies. And those competencies and talents should be showcased and should be accessible. You can imagine if you go in Team Info and instead of searching by names, you search by competencies. That would change everything. Anyway.
So you rolled out some new competencies after that. I remember talking to you about your various options, but you jumped.
That was actually a very meaningful conversation.
you jumped over to a bilateral relations job in Africa about 2 years ago, I think.
Exactly.
So, what have you learned about the department and about yourself as you started doing something completely different?
Yeah, I really love different, to do different things, you know.
Right.
So the idea of doing that, I mean, very honestly, I made the pool, the FS3 pool. So it was for me a possibility to become a manager. And I was really excited about that.
Right.
And it happened that
You're a deputy director.
I'm a deputy director, with a small team of very incredible employees. And if we have time, I'd like to talk about them later on. But so I made that move on the political side. I was lucky enough to find a manager who was willing to accept me without any political background, because that's not easy neither. Huh? I met a lot of managers who said, well, you're not an FS, a real FS.
Right.
Like, what's a real FS? What's a real PM? I mean, for me, anyway, that's another conversation. But she took me on board, and man, that was, again, a revelation. Something, a real eye-opener.
Right.
Because dans le monde des PM, et là, je ne veux pas généraliser, mais tu sais, on gère de l'argent, on gère des projets, on pense qu'on est « we're the real guys », puis que du côté politique, on pense qu'ils font juste parler.
Ouais.
C'est vrai, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y a des choses extraordinaires qui se font. Anyway, it's part of the job. You're managing bilateral relations, so you need to talk to people. But I realized the power of other tools we have in our toolbox, for example, sanctions, and how we were able to use this tool in the particular case of South Sudan.
Avec le nouveau Magnitsky.
Avec le nouveau Magnitsky. Vous savez, le Soudan du Sud fait partie des 13 pays dont je m'occupe quotidiennement, et puis lire les rapports sur ce qui se passe au Soudan du Sud, c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à lire dans ma vie. Quand tu lis qu'environ 70-90% des femmes dans les camps de personnes déplacées ont vécu ou ont été témoins d'agressions sexuelles, c'est très troublant. Et on lisait ça, puis on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas beaucoup de ressources. Et quand le gouvernement est arrivé avec sa loi Magnitsky, by the way, I don't know if you read Bill Browder's book, Red Notice, but it's amazing, and it tells the whole story about why we... I mean, anyway, I read that book, and I was pretty impressed. Mais quand on a vu que le gouvernement arrivait avec Magnitsky, on s'est dit, voici une chance. de faire un petit quelque chose. Et on a travaillé de très près avec nos collègues du Venezuela, nos collègues du programme de la Russie. Et on a réussi à prendre trois Sud-Soudanais du gouvernement qui ont commis des exactions contre les droits humains. On a réussi à les mettre sur la liste. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site Internet des sanctions canadiennes, vous allez voir à la fin de la liste, il y a trois Sud-Soudanais qui sont là et qui ne peuvent plus voyager au Canada, qui ne peuvent plus transiter de fonds au Canada ou interagir. Donc, et c'est un outil extrêmement puissant. Je le sais parce que je couvre aussi le Zimbabwe. Et un jour, ces gens-là ont des enfants qui veulent venir étudier au Canada parce que c'est un endroit intéressant pour étudier. Puis tout à coup, ben, ils ne peuvent pas. Et là, ils réalisent qu'il y a une certaine justice dans ce monde. Je ne veux pas devenir trop... mais c'est,
non, mais c'est super intéressant parce que j'ai travaillé là-dessus sur le Venezuela. Et c'était un cas, je crois, où le monde et où le pays, Canada, avait besoin de nouveaux outils. Case of our tools needing to catch up to reality, and it wasn't entirely straightforward. But we do know that naming and shaming individuals helps advance policy for the reasons you just said.
Absolutely, that's behavioral economics.
It's kind of a nudge.
Yeah.
et maintenant. Tu vas aller au Mexique pour travailler sur le dossier des affaires publiques, quelque chose pas mal important au Mexico. C'est une section assez grande, je crois, dans l'ambassade, dans un moment stratégique, un moment très important entre le Canada et le Mexique. What are you excited about?
Everything. Non, c'est une grande opportunité, une grande chance qu'on m'offre d'aller représenter notre pays au Mexique. D'abord, parce que je vous l'ai dit, on a un attachement particulier, ma femme et moi, pour l'Amérique latine. Mais aussi, au Québec, on a une expression, on dit « tout est dans tout ».« Everything is in everything ». Sur la base de l'expérience que j'ai eue dans le passé comme journaliste, de retourner dans le domaine des affaires publiques, pour un peu, promouvoir les valeurs canadiennes au Mexique. Il y a beaucoup de liens. Moi, j'ai lu dans les dernières semaines, pour me préparer les derniers mois, beaucoup de liens au niveau d'éducation entre les deux pays, les industries culturelles, bien entendu, les échanges économiques. Et je vois ça comme un grand défi, puis un grand honneur aussi. Un défi familial. Maintenant, on a trois enfants, donc on va... Mais on est très excités, puis je pense qu'ils sont très contents, les enfants aussi. Mais ça va être un défi personnel aussi. Et c'est ça, voir encore une fois, j'ai jamais fait ça, là, ce job-là, moi. Donc, encore une fois, développer d'autres outils pour agrandir la boîte à outils.
So, I think what makes your trajectory interesting is that you began as a non-rotational development officer. Nobody at CETA was rotational.
No.
You parlayed that into what would have been a single posting in Peru because there were one-off assignments, but there wasn't the rotational system. You successfully transitioned into a couple of different roles in the amalgamated department, and now you're going out into what would be considered a mainstream FS job. So that strikes me as a pretty successful dance, a pretty successful navigation of a complex complex environment. What advice would you give to others that are at your stage of your career or even earlier as they're looking upwards? And facing choices.
Okay. I don't know. Look, I had this habit that every time I left a job, I sat down with my manager and my manager's manager to have a chat about to get some advice from them. J'ai fait ça avec Isabelle Bérard quand elle était ma directrice générale sur Haïti. Elle m'a dit, Sacha, au travail, il faut que tu aies du fun. Je connaissais Isabelle, je pense
c'est 100% Isabelle.
Oui, c'est ça. J'ai rencontré Patricia Fortier, qui était mon ambassadeur avant de partir du Pérou, qui m'a donné d'autres conseils. Et je t'ai rencontré toi aussi avant de quitter les Amériques pour avoir tes conseils sur ma carrière. D'ailleurs, ça a été une des conversations les plus enrichissantes que j'ai eues, parce qu'à ce moment-là, je m'attendais à ce que tu me dises « Ah ben là, tu sais, t'as fait ça, maintenant tu devrais peut-être faire ça, puis by the way, tu sais, travaille fort, fais des longues heures, puis fais des concours, puis... » Puis c'est pas ça du tout que tu m'as dit. En fait, tu m'as dit « I just read a book. » It's called « The Road to Character », David Brooks. And then you started talking to me about self-discipline and being humble and the importance of being able to suppress parts of yourself for the greater good of the organization. And for me, that was a clear eye-opener. I read the book. And I realized that these values are not the values that everybody are talking about these days. Les gens, on est dans une société très individualiste. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Pourquoi j'ai pas réussi tel concours? Alors qu'on devrait peut-être plus se poser la question, où est-ce que je pourrais être le plus utile pour mon organisation?
Ouais.
Alors moi, pour faire une histoire courte, ce que j'aurais à donner comme conseil aux jeunes ou à d'autres gens qui se posent des questions par rapport à ça, c'est... soyez conscient que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Soyez fiers de vos talents et de vos compétences, puis allez chercher toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour apprendre, mettre ces talents-là en valeur et avoir du fun. et ça se résume pas mal à ça.
Ouais.
Ceci dit, je suis très conscient qu'il y a dans ce ministère plusieurs jeunes, et j'en ai dans mon équipe, je te disais un peu plus tôt que je voulais parler de mon équipe, des jeunes extrêmement talentueux, 25, 26, 27 ans. C'est eux les vrais jeunes, c'est pas moi. Et c'est pas facile pour eux en termes de comprendre où leur carrière s'en va à cause de leur statut d'emploi. I'm really worried. I was thinking about that on my bike this morning and I cornered that expression. I don't know if it's too strong, but I'm worried about a lost generation in this department because I see some very talented officers leaving the department, going to defense, IRCC, and other places because they can't have a clear career path in this department. So I really hope that we can find a way to, you know, harness this energy and keep them with us, knowing that it's not easy and the resources are not. But vraiment, là, les jeunes ici sont motivés, travaillent fort, et puis il faut leur donner une voix, puis les écouter.
Well, maybe we can give them a voice by inviting them on to...
Hey, I have some names for you!
Inviting them on to the podcast.
Sure.
I think you've given us wisdom beyond your 36 years. et ce sera un grand plaisir de t'inviter de nouveau. Après quelques mois au Mexique.
En fait, je t'invite à amener ton podcast au Mexique et puis à venir rencontrer des gens là-bas.
OK. Deal.
Deal.
Merci, Sacha.
Merci beaucoup, David.
OK, ciao. Merci.
We hope you enjoyed today's discussion. If you have feedback or suggestions for future topics or guest speakers, please send David an email.
Nous espérons que vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant de sujets futurs ou de nouveaux conférenciers, veuillez envoyer un courriel à David.
Thank you for listening, and we look forward to you joining us on the next episode of The GAC Files.
Merci d'avoir écouté le balado, et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour le prochain épisode des Dossiers d'AMC.